moi un peu ta vie, ton enfance à Marseille.
Alors, je suis né en 1966 à Marseille, dans un des quartiers les plus populaires de Marseille, qui s'appelle la Belle de Mai. Donc, j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 9 ans. Puis, je suis allé dans une banlieue qui s'appelle La Marie, près de la Croix-Rouge, près d'Allo. Une petite commune qui s'appelle Allo. Donc, c'est vraiment la frontière est de Marseille. Donc j'ai grandi, j'ai vécu là pendant 20 ans où j'ai rencontré plein de gens intéressants. J'ai eu la plus belle partie de ma vie et je pense que je l'ai pas paradoxalement. Je l'ai passé là parce qu'effectivement c'est une cité ouvrière, une cité populaire où c'était en plus j'ai eu la chance de grandir à une époque où il y avait un éclectisme dans les cités, c'était quand même pas mal mélangé. Il y avait beaucoup de communautés, je ne dirais pas toutes les communautés, mais beaucoup de communautés. Et il y avait un brassage non seulement ethnique, mais aussi social, ce qu'il n'y a plus aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, c'était une époque où dans les cités, il pouvait y avoir des pauvres, des moins pauvres et des cadres. Moi, autour de moi, parmi mes voisins, il y avait un cadre de la CNCF, il y avait un pilote, il y avait des hôtesses de l'air, compagnie aérienne, il y avait un charcutier, il y avait un chauffeur de taxi, il y avait tout, c'était quand même assez, socialement assez mélangé, chose qui est quasiment inimaginable aujourd'hui dans une cité HLM de la banlieue marseillaise. Puis j'en suis parti au bout de 20 ans quand même. Mais mes meilleurs souvenirs, mes souvenirs d'enfance, d'adolescent, je crois que je les ai vécus là. Voilà. Parce qu'il y avait une certaine liberté. C'était une époque où, quand on vivait dans une cité, on pouvait sortir, quand on avait 10 ans, on pouvait sans problème sortir avec des copains, sans se soucier de ce qui pouvait arriver par ailleurs. On avait une liberté quand même qui était assez grande pour l'époque, et pourtant, malgré le fait qu'on avait des parents, enfin, je dis homme parce que j'ai des frères et sœurs.
T'avais combien de frères et sœurs ?
J'avais un frère et trois sœurs, et donc on était quand même assez libres parce que nos parents nous faisaient confiance. On n'a jamais trop fait de grosses bêtises, on a fait quelques-unes, mais voilà. Et puis c'était surtout une époque où on n'avait pas trop de soucis à se faire quant à ce qui pouvait nous arriver par ailleurs. C'est-à-dire que il n'y avait pas aujourd'hui, je veux dire, ça vous paraît inconcevable de laisser un enfant de 10 ans sortir tout seul, sortir sans ses parents, quoi. Alors qu'à l'époque, c'était tout à fait concevable. Parce qu'effectivement, il n'y a pas ce sentiment, hélas, d'insécurité qui peut s'expliquer aussi. Voilà, d'une part. Et puis c'était une autre époque. Bon, ben voilà, on dit que toujours joli le temps passé. Et puis il y avait moins de pression, il y avait moins de violence, il faut le dire. Il y avait de la violence, parce que moi j'ai grandi dans une cité où il y avait une certaine forme de violence, mais il y avait des règles. Voilà, c'était une époque où il y avait quand même des limites, voilà, à ne pas franchir, surtout entre générations, chose qui me paraît aujourd'hui inconcevable, hélas. Enfin, pas inconcevable, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on constate de moins en moins aujourd'hui. Donc voilà, ces années-là, je les ai passées, c'était les années bonheur. Alors forcément, les années d'enfance, c'est toujours la plupart des cas, d'enfance et d'adolescence, c'est souvent les meilleures années, parce que c'est la meilleure période de notre vie. Mais nous, quand même, j'ai eu la chance d'habiter une cité où quand même il y avait pas mal de campagnes tout autour, il y avait pas mal de possibilités d'avoir des activités intéressantes. Voilà. Que ce soit des petites randos, il y avait des piscines publiques autour de nous, Il y avait aussi des balades, on se faisait des petites forêts, des collines, voilà. Donc voilà, on était quand même bien lotis.
Et
Voilà.
t'es allé où quand t'es sorti de la cité, quand t'es parti?
Alors quand je suis parti de la cité, c'était parce que je travaillais à l'aéro, je me suis mis à travailler. J'ai trouvé un travail loin de chez moi, donc je me suis installé loin de chez moi, donc dans une ville beaucoup moins intéressante qui est Marignane. Voilà. Donc pas loin de l'aéroport, c'était pratique parce qu'effectivement quand j'ai trouvé ce travail, comme je faisais les 2-8, ce qu'on appelle les 2-8, c'est-à-dire 8 h le matin et 8 h le soir, je devais me lever très 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 très, très tôt parce que je commençais à 6 h du matin, donc je me levais très tôt pour aller travailler, alors que déjà j'étais musicien, je jouais, voilà. Et donc le fait d'habiter à Marignane, ça me permettait de dormir un peu plus. Voilà, c'est. Voilà.
Et du coup, bah, tu as dû voir Marseille changer. Qu'est-ce que tu penses qui a le plus changé à part
Ben, Marseille, ce
ainsi
qui a
que...
changé, je pense que c'est pas propre à Marseille, c'est propre au monde. Hein, voilà, les mentalités. Je crois que je crois qu'il y a moins d'optimisme, moins d'envie. Bon, forcément, quoi, on est confronté. Soit à Marseille ou ailleurs, on est confronté aux mêmes problématiques. Et puis voilà, quoi, ça se ressent chez les gens, dans les attitudes. Et puis, c'est hélas, je crois que les gens sont plus vraiment optimistes, quoi. Voilà, quant à l'avenir, j'ai vécu une époque où on y croyait encore un petit peu, quoi. Voilà.
Et à la cité, tout le monde parlait français ou il y en a qui parlaient pas français?
La plupart des gens parlaient français, oui, tout à fait. Non, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à analyser sociologiquement, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on voit que les écarts se creusent entre les différentes populations voilà, sociales. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'immigration, etc. Mais sans parler de ça, je crois que les écarts se sont creusés entre les différentes parties de la société, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu vraiment la grande époque des classes moyennes. Aujourd'hui, les classes moyennes, elles sont en train au fur et à mesure, de disparaître. Mais c'est un constat que, pas besoin d'être sociologue pour le faire, mais en fait, les sociologues le font. C'est un constat qui alerte les sociologues depuis longtemps. Mais c'est vrai, je reviens là-dessus. Moi, dans ma cité, c'était une cité HLM. Il y avait un éclectisme qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il y avait toutes les couches, pas toutes les couches, parce qu'il n'y avait pas de bourgeois, évidemment, mais beaucoup de couches de la société étaient représentées dans cette cité. Et se côtoyer surtout, c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire que je me souviens, alors il y avait un événement qui était particulier, c'est l'événement de la Saint-Jean. Et la Saint-Jean, c'était je dis pas de bêtises, c'est le 20 juin, je crois. Et comme dans cette cité, il y avait pas mal d'Italiens, il y avait beaucoup d'Italiens, de Siciliens, mais il y avait aussi des Antillais, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Gitans. Des Italiens, je l'ai déjà dit, des Français, il y a même des Polonais, mais j'ai des copains polonais. Et donc la Saint-Jean, c'était une tradition à laquelle les communautés latines étaient très attachées, latines en particulier, les Italiens et les Calabrais aussi. Et Siciliens, eux, ils étaient très attachés à ça. Donc, un petit peu, une semaine avant la Saint-Jean, ils rametaient tous les enfants du quartier, les tout petits comme les plus grands, et on allait chercher des bois. Il y avait un terrain de boules au milieu de la cité, pas au milieu de la cité, mais sur le côté, voilà, un peu à l'extérieur de la cité. Et une semaine avant la Saint-Jean, tout le monde devait faire un gros tas, le plus gros tas possible de bois, d'objets divers, de cagettes, de meubles dont certains ne voulaient plus, on les mettait là, quoi. C'était une sorte de décharge, mais on faisait attention à pas mettre n'importe quoi, et pas de plastique, de pneus, tout ça, quoi.
Et vous aviez chacun votre tas?
Ah non, mais chaque... Non, 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 il y avait un tas, tout le monde amenait, voilà, tout le monde participait à ce feu. La tradition, c'était de mettre le feu à la Saint-Jean, on mettait le feu. Et la tradition, c'est que le jour de la Saint-Jean, on allume le feu. Tout le monde autour, c'était hyper festif. Et puis dès que le feu, il était trop, le tas était quand même assez haut, hein, au bout du compte. Hein, il faisait bien 3 mètres de hauteur, quoi, 3-4 mètres de hauteur. Hein, parce que toute la cité avait ramené ces petites choses. Et puis donc on mettait le feu le jour de la Saint-Jean, on dansait autour. Et après le but, c'était de sauter le feu, quoi, de sauter quand le feu... Voilà, se réduisait un petit peu, il fallait le sauter de part en part. Donc on s'amusait, c'était... Donc ça, c'est une tradition qui réunissait tout le monde. Pas seulement les Italiens, c'était tout le monde qui se réunissait. Et ça, c'est... Aujourd'hui, je crois qu'on ne le voit plus, quoi, hélas, quoi. Donc aujourd'hui, on a creusé des... On a fabriqué des ghettos. Je me demande même si c'était pas... Bon, en fait, je ne vais pas rentrer dans de... Je vais pas faire des commentaires... Voilà, je vais pas sortir de la frontière, mais hélas, voilà, c'est un constat. Hein. On peut dire ce qu'on en veut. Les raisons, je pense que beaucoup les connaissent, mais en tout cas, aujourd'hui, hélas, il n'y a plus ça, quoi. Il n'y a plus ça. On a fabriqué des ghettos depuis des années. Enfin, j'ai quand même une petite explication, moi. C'est qu'à une époque, pour habiter dans un HLM, on avait droit, quand on habitait dans un HLM, on avait droit à des aides. Et ces aides ont été, c'est pas tant qu'elles aient été réduites, mais c'est qu'elles ont été attribuées, qu'en partie, on a rabaissé le niveau de revenu à partir duquel on pouvait prétendre à ces aides. Voilà. Ce qui veut dire que les gens qui gagnaient leur vie moyennement, ils ne pouvaient plus prétendre à ces aides. Donc ils sont partis dans le centre-ville de Marseille. Mais c'est tout, c'est pareil partout en France, j'imagine. Ils sont partis, ils se sont dit, ben, puisqu'on n'a plus droit à ces aides, on ne voit pas pourquoi on va vivre dans des HLM. Donc c'est les plus miséreux de la société qui sont venus. Et moi, je l'ai vécu, ça, je l'ai vu. Et c'est à partir de là que ça s'est dégradé, mais dégradé gravement, quoi. Où la délinquance a explosé, le trafic. Du jour au lendemain, j'ai vu le trafic de. J'ai vu toutes sortes de trafics apparaître quasiment du jour au lendemain. Voilà. Vous avez d'autres questions, mademoiselle?
Oui, ben, par exemple, est-ce que tu avais d'autres traditions comme la Saint-Jean qui viennent d'autres communautés?
Ben oui, les traditions musulmanes dont je faisais partie, mais non, non, nous on avait nos traditions, mais nos traditions on les pratiquait à discrétion, on va dire. Donc oui, c'est la tradition, partant, on ne partageait pas les autres, parce que j'ai des parents qui étaient quand même assez pudiques, assez, on va dire, pas introvertis, mais. Ils étaient assez discrets sur ça, c'était pas du genre. Hein. Voilà, aller voir les autres, quoi. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Non, après, on avait nos traditions familiales, mais c'est vrai que bizarrement, les communautés musulmanes de la cité, les communautés musulmanes de la cité, ça enregistre toujours. Les communautés musulmanes de la cité ne faisaient pas, non, non, n'étaient pas très. On va dire, s'exprimait pas trop. Voilà, c'était plutôt discrète. Voilà. Donc il n'y avait pas de chacun pratiquait. Les musulmans pratiquaient leur religion quand même assez discrètement dans leur voilà.
Pour les
Che,
grandes
chez eux,
fêtes.
chez eux. Non, l'Aïd, chacun faisait des trucs chez eux quoi. Ils se voyaient entre musulmans, ils se voyaient. Après les repas ou le Ramadan, après le repas du Ramadan, ils se voyaient en bas de la cité discuter. Tranquillement, chaleureusement, pas qu'entre musulmans d'ailleurs avec les autres. Non, non, c'était pas aussi. Il n'y avait pas le communautarisme. Alors, ça, ce qui est sûr, c'est que le communautarisme était quasiment inexistant quoi, à l'époque. Voilà. Moi, dans mon enfance, c'est-à-dire que tous les musulmans que je connaissais étaient pratiquants. Tous les Italiens étaient pratiquants. C'était des catholiques, des fervents catholiques. Les communautés. D'Italie, et puis les autres aussi, et puis il y avait, voilà, il n'y avait pas, y avait pas vraiment de, par rapport à tout ça, justement, le communautarisme, d'ailleurs, c'est un mot qu'on n'employait jamais, hein, on n'entendait pas, ce mot. Donc voilà, c'était assez, voilà, après, il n'y avait pas d'autres, non, non, après, il y avait une autre tradition à nous, qui n'était pas du tout religieuse, c'était tradition de nous, adolescents, on avait, alors, autour de la cité, il y avait pas mal de villas, avec pas mal d'arbres fruitiers, et les gens qui possédaient ces villas avec des terrains et des arbres fruitiers. Ils avaient des arbres fruitiers. Nous, on attendait, on voyait les cerises pousser. À l'époque, c'était pas donné quand même. On n'achetait pas des cerises comme ça, quoi. C'était quand même assez cher. C'était encore un produit de luxe, des abricotiers. Donc, notre tradition à nous, c'était quand les cerises, les abricots arrivaient à maturité, on allait les cueillir sur les arbres, puisque les gens les laissaient pourrir. Donc, on allait les cueillir. Voilà. On les ramenait à nos parents. Voilà.
Et vous vous êtes déjà fait...